Un dernier dîner avant le départ. Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel ce soir à l'Elysée, avant les élections allemandes du 26 septembre, dans 10 jours. Elles marqueront la fin des 16 années d'ère Merkel, même si elle restera sans doute quelques semaines de plus à la chancellerie, le temps que la probable coalition qui sortira des urnes se mette en place. Mouti, la maman, donc, s'en va après 16 ans et 4 présidents français. Jacques Chirac lui faisait le baise-main, Nicolas Sarkozy préférait les embrassades. Elle a marché aux côtés de François Hollande au lendemain des attentats de janvier 2015. Et Emmanuel Macron a pris l'habitude de partager un verre de vin blanc avec elle lors des sommets européens. Elle a aussi fermement défendu les intérêts allemands tout au long de ces années. Alors qu'est-ce que le départ annoncé de la femme qui a dominé l'Europe change pour la France? Parmi les candidats à sa succession, lequel offre les meilleures garanties pour la France? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Si vous le souhaitez, on peut aussi dire un mot du bilan de la chancelière et de la campagne en Allemagne. Bonjour Hélène Mière de la Croix.
Bonjour.
Professeur d'histoire et de civilisation allemande à la Sorbonne, spécialiste des relations franco-allemandes, vous avez publié, coécrit avec Andras Wirsching, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand. C'est paru chez Fayard. Je voudrais commencer avec la remarque de Pierre. Est-ce que le départ de Merkel n'est pas en partie une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, un peu plus de place et une Allemagne qui se cherchera peut-être un peu les premières semaines?
Alors, il y a une incertitude pour tout le monde, pour les Allemands bien sûr, pour les Français. Nous sommes finalement très très directement concernés par les choix que vont faire les électeurs allemands. Alors c'est vrai que ça laisse un petit peu de marge de manœuvre au président français. En même temps, comme on sait très bien qu'il faut quelques semaines, plusieurs semaines, quelquefois même plusieurs mois, pour qu'un gouvernement puisse se former à partir d'une nouvelle majorité au sein du Parlement allemand, il y a quelques incertitudes du côté de l'Élysée et c'est un peu compliqué parce que la France, comme vous le savez, commence le 1er janvier. La présidence de l'Union européenne seulement pour 6 mois, ça arrive une fois tous les 13 ans. Donc il faut à Paris essayer d'obtenir dès maintenant quelques indications sur les grandes lignes qu'on va pouvoir lancer en commun, parce qu'il n'y aurait rien de plus dommage que Paris lance des projets et que à Berlin on ne réponde pas et que la main tendue, comme on a déjà connu dans le passé, ne soit pas prise.
Et il est possible que Angela Merkel soit encore aux affaires alors que la France présidera l'Union au début de l'année prochaine?
Ah, ce n'est pas exclu. En 2017, il y a 4 ans, il a fallu de longues semaines de négociations pour d'abord un premier échec de formation d'un gouvernement, notamment avec les Verts et les Libéraux, et jusqu'à ce qu'elle se résigne à l'idée de refaire une grande coalition. Et ça, on avait eu un gouvernement seulement en janvier-février, donc c'est possible. Alors officiellement, c'est sa dernière visite, mais on risque de la voir encore un petit peu.
Comment ça se passe dans ces cas-là? Elle expédie les affaires courantes ou elle est pleinement au pouvoir et lors des rencontres européennes, elle sera toujours Angela Merkel avec la même assise?
Alors, elle est, tant que un nouveau gouvernement n'est pas formé, tant qu'un nouveau chancelier, une nouvelle chancelière n'est pas élue par le Bundestag et ne jure pas, ne prête pas serment, c'est elle qui est chef de gouvernement. Et donc, c'est elle qui doit agir. Alors, bien évidemment, elle expédie les affaires courantes au sens où elle va éviter de prendre des décisions radicales. Elle en a fait quelques-unes dans le passé, sa décision de sortir du nucléaire. Je ne pense pas qu'elle nous réserve une surprise de la sorte dans les semaines à venir. Mais en même temps, elle doit agir. C'est-à-dire que si elle se trouve de nouveau confrontée à une situation de crise, comme il y en a eu dans le passé, elle a eu de quoi faire pendant 16 ans, eh bien, elle a les pouvoirs qui sont prévus par la Constitution, avec l'équilibre des pouvoirs de ce pays.
Macron-Merkel, c'est un couple qui a bien fonctionné?
Oui, je crois que c'est un couple qui a bien fonctionné. Au début, c'est un couple qui a un petit peu fait rêver, fait sourire. On ne savait que trop.
Président et la chancelière expérimentée.
Voilà, elle expérimentée, plus âgée, lui fougueux, elle plutôt posée, lui apportant vraisemblablement un petit peu de modération. Et je pense que leur relation a bien fonctionné parce qu'ils se sont tout de suite reconnus quand même comme des animaux politiques, comme des gens de grande intelligence et notamment d'intelligence politique et capable d'admirer l'autre aussi et de respecter ce qu'il a et ce qui fait sa force. Et je pense que c'est un des nombreux exemples que nous avons dans cette histoire heureuse commune franco-allemande, c'est la capacité à... Alors ce qu'on appelle un couple, c'est arriver à faire travailler harmonieusement les forces, les intérêts et les atouts de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement d'accord, c'est même très rare qu'on soit d'accord. Et on n'a pas du tout les mêmes intérêts, mais savoir faire, s'enclencher ces intérêts nationaux et ces atouts... C'est ça, je pense, le succès de ce couple franco-allemand comme d'autres auparavant.
Quand on parle de couple franco-allemand, est-ce que pour une personnalité comme Angela Merkel, les relations personnel entre dirigeants ont de l'importance, avec son côté réservé, on se dit que c'est secondaire. J'ai commencé par citer quelques images pour le plaisir des images. Les relations personnelles ont de l'importance pour elle, Hélène Maire de la Croix.
Alors, elles ont de l'importance toujours. Elles ont de l'importance toujours parce que ces dirigeants, ces dirigeantes, ils se voient très très régulièrement. Ils se voient aussi quand on ne le sait pas. Enfin, je veux dire, il y a lors des sommets de différents formats en parallèle, il y a des petits déjeuners de travail. Donc ils se fréquentent beaucoup et nécessairement, même si on est dans le très grand sérieux et dans le professionnalisme, il s'établit une relation qui peut être aussi, comme dans tout à fait d'autres métiers, une complicité lorsqu'on a réussi un coup ensemble, lorsqu'on s'est moqué d'un autre. Et je pense que, bien évidemment, Angela Merkel, on ne la connaît pas comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui on peut avoir ce type de complicité. C'est une femme qui a énormément d'humour, qui a un humour assez cassant, comme ça, assez cinglant, et qui sait, en revanche, absolument avoir ce visage impassible et incarner une grande responsabilité et un grand sérieux. Mais je pense que entre quatre yeux, ils s'amusent un peu.
Bon, là où ils ont réussi un coup, ces deux-là, c'est l'été dernier, l'année dernière, le plan de relance pour affronter la crise sanitaire et ses conséquences. C'est vraiment là le couple franco-allemand Macron-Merkel qui a été à l'œuvre pour mettre en place ce bouleversement européen.
Alors, on peut le voir, si vous voulez, de manière fonctionnelle. C'est en effet le couple franco-allemand Merkel-Macron qui se sont retrouvés à un petit déjeuner. Ils ont fait cette proposition. Ils ont réussi à ficeler une proposition française, française et allemande, oui, de 500 milliards d'euros, qui a été reprise par Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, et on en a rajouté 250 milliards.
On est passé à 750.
Voilà, on est arrivé à 750 milliards d'un fonds commun pour aider les économies lorsqu'elles vont sortir de la crise sanitaire. Alors, est-ce que ce sont les deux personnalités ? Oui, puisque on a des deux côtés, même si en Allemagne on est très horizontal, il y a quand même un phénomène pyramidal. Il n'empêche que l'entourage a bien évidemment joué un rôle important, et autour d'Angela Merkel, ses conseillers, mais aussi le ministre des Finances, c'est-à-dire un des deux candidats à la chancellerie actuellement, qui, oui, est Olaf Scholz, ministre des Finances, qui, d'après ce que je sais, aurait aussi beaucoup poussé pour convaincre la chancelière qu'il fallait lâcher sur ce point. Il faut se rappeler aussi la chronologie. A priori, l'Allemagne restait toujours sur sa ligne que l'Union de l'euro, si vous voulez, l'Union monétaire, était réglée par la Banque centrale, et qu'on n'instaurait pas de mesures politiques, de dispositifs politiques d'aide. Or, il y a eu un jugement de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe qui a mis en garde en disant « Attention, la Banque centrale européenne ne peut pas prendre des décisions politiques ». Je simplifie un petit peu. Et donc, le seul moyen d'aller au devant, enfin de prévoir, enfin aller contre les difficultés que l'on pouvait attendre, était de décider en décision politique de, exceptionnellement, pour le moment c'est exceptionnel, on ne sait pas s'il sera reconduit, mettre en place un système, un dispositif de solidarité, de reconstruction,
de mutualisation
des dettes, voilà. Et des dettes et de financement pour réparer les économies européennes qui auront été secouées par la crise sanitaire.
Jusque-là, elle n'était jamais allée aussi loin. Pour les présidents français, Angela Merkel a longtemps été Madame Non, celle qui disait non lorsqu'ils avaient des intentions, disons, financières ou lyriques à l'égard de l'Europe. Elle était assise sur les intérêts allemands et sur une conception très stricte de l'orthodoxie financière.
Oui, en effet. Alors, c'est d'abord, on peut dire, est-ce que c'est Angela Merkel en tant que personne ? C'est en tant que chancelière, voilà. En tant que chancelière à la tête d'une coalition avec derrière elle non seulement son propre parti, les chrétiens-démocrates, dont une aile est libérale au sens de l'orthodoxie budgétaire, le fameux Schwarz-Null. Hein, beaucoup de gens en Europe ont appris au moins deux mots d'allemand, c'est-à-dire donc ce zéro noir, c'est-à-dire cette règle d'or qu'on ne doit pas s'endetter plus, on ne doit pas dépenser plus que ce qu'on a dans son porte-monnaie. C'est une ligne, c'est une idéologie, si l'on veut, c'est une doctrine économique qui nous vient du néolibéralisme, qui est peut-être à la fin de son cycle. Peut-être que la crise sanitaire nous a conduit à la fin de ce cycle, mais il est vrai qu'Angela Merkel a incarné, de par sa position, cette ligne de dire non, il y a un certain nombre de règles qui ont été décidées validé à Maastricht, à la suite de l'unification de l'Allemagne. Et parmi ces règles d'or, même si nous avons accepté l'union bancaire et de nous aider les uns les autres lorsqu'il y a des grosses vagues et de la houle, pour autant, la règle d'or doit être respectée. On ne dépense pas plus que ce que l'on a dans son porte-monnaie.
Remarque de Paul, les hommes et les femmes tentés par la fonction suprême devraient suivre le parcours de Madame Merkel, femme simple, irréprochable, proche de ses citoyens. Ça amène une question, alors qu'elle s'apprête à quitter la chancellerie, elle est encore au-delà des 50% de popularité. Quels sont les ressorts de cette popularité?
Alors, il y a les méchants et les gentils. Alors, les méchants vont vous dire...
Oui, commençons par les méchants, c'est
voilà,
plus drôle.
Voilà, les méchants, les critiques vont vous dire... les ressorts de sa popularité, c'est qu'elle a toujours finalement réussi à naviguer en suivant un peu le sens du vent, en sentant monter dans la population le désir, enfin, la volonté d'arrêter le nucléaire à la suite de Fukushima, les bras ouverts pour les réfugiés, les migrants en 2015, Syrien. Voilà, et qui... Le désir d'instaurer le mariage pour tous, ce contre quoi elle était personnellement
opposée
ouais. et puis qui allait à l'encontre de la tradition de son parti. Donc d'aucuns vont vous dire elle a toujours surnagé parce qu'elle a parfaitement su slalomer et répondre à une demande. D'autres vous diront non, c'est justement quelque chose de très positif, ce n'est pas de l'opportunisme, mais au contraire, c'est une façon de gouverner que de considérer qu'on est toujours là pour trouver le compromis le plus favorable dans une situation donnée qui peut changer. Et dans les situations qui changent, il y a aussi les forces politiques avec lesquelles elle devait travailler. Il faut se rappeler quand même que pendant les 16 années où elle était au pouvoir, il n'y a eu que 4 années où elle a pu gouverner avec le partenaire favori des chrétiens-démocrates, c'est-à-dire les libéraux, et que sinon, elle s'est les 3, donc pendant 12 ans, trouvée dans une coalition qui va même plus loin que ce qu'était la cohabitation en France, c'est-à-dire au sein même d'un même gouvernement avoir son opposant politique naturel avec lequel elle devait travailler.
Allez, question de Vincent, je vais vous demander de la formuler rapidement, s'il vous plaît, Vincent.
Alors, ça va être très rapide. Donc, ma question est, n'y a-t-il pas une obligation de bonne entente entre le représentant français et le représentant allemand, compte tenu du poids des deux pays? Et s'il n'y a pas entente, l'Union européenne ne fonctionne pas, l'euro est en danger. Donc, qu'il soit de droite ou de gauche, en France ou en Allemagne, ils sont obligés de s'entendre.
Hélène Mire de la Croix, vous avez 15 secondes.
Oui, bien sûr. Ils sont obligés. Alors, il faut, et d'ailleurs, ils le prennent de manière très sportive. Ils ne le prennent pas comme une contrainte. Ils le savent très bien. Les responsables politiques savent que c'est le partenaire de chaque côté. C'est le partenaire absolument incontournable pour des raisons de poids politique, pour des raisons de poids économique, pour des raisons de présence de force à l'intérieur de l'Union européenne. Depuis le Brexit, l'importance de l'un pour l'autre est encore accrue.
Encore plus.
Et puis, parce qu'il y a, si l'on veut, l'addition des forces de la puissance commerciale à la puissance nucléaire et grande puissance que se dit être toujours la France.
Merci Hélène Mire de la Croix d'être venue dans les studios de France Inter. On avait plein de questions encore à vous poser. On peut vous lire Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand. C'est paru chez Fayard, coécrit avec Andreas Wirsching. Merci beaucoup.